Vendredi 7 septembre, bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du vendredi. Une émission qui dure 1h30. Hélène Denis avec vous jusqu'à 11h30, donc. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Météorologiquement, c'est vraiment beau, hein?
Mm-hmm. Ça rafraîchit.
Soleil fantastique, mm-hmm. Temps sec, un peu plus frais. Merveilleux. Ça commence à sentir l'automne.
Tranquillement, lentement, mais sûrement. On va peut-être avoir encore quelques journées de chaleur, soit-on-le.
Ouais. Des chaleurs comme accablantes, vous voulez dire, avec humidex
chaleur,
à 42?
La chaleur.
OK, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde pour ce qui concerne la météo, parce que moi, j'aime beaucoup ces journées-là.
Non, c'est bien aussi comme aujourd'hui,
automnale.
On aime ça. Oui.
Et puis, on en a vécu hier des émotions. Hein. Mm-hmm. Lise Payette. Après Gilles Pelletier.
Oui.
Ensuite, on apprend la mort de Burt Reynolds.
Oui.
Et aujourd'hui, j'espère que ça va être plutôt tranquille, mais c'est sûr qu'il en sera question dans mes lectures d'aujourd'hui parce qu'on en parle partout dans les journaux de Mme Payette, entre autres, et de M. Pelletier.
Deux grands monuments.
Oui. Mm-hmm.
Québécois.
Et puis, parlant de...
Que s'est-il passé?
Oui!
Ce 7 septembre.
J'allais dire de monuments. Est-ce qu'il en a? Il y en a dans vos éphémérides d'aujourd'hui?
Oui. En 1822, le Brésil proclame son indépendance face au Portugal. Et voilà.
C'est monumental.
c'est une belle occasion de fêter pour les Brésiliens.
Oui.
1860, lors d'une visite du prince Galles au Canada, la feuille d'érable, apparaît comme emblème pour la première fois. 1953, Nikita Khrouchtchev devient le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. 1965, travaillant à un pilier du futur pont La Violette à Trois-Rivières, 12 ouvriers sont tués par une explosion. En 76, j'ai un vague souvenir de 76, mais le juge Jules Deschênes de la Cour supérieure ordonne à Air Canada de cesser d'interdire à ses pilotes de parler français. Il me semble qu'il y avait une crise, là, Air Canada français, en 76. Je suis un peu jeune. Mais relativement un peu jeune.
On se souvient des Jeux olympiques, mais de cette histoire-là, on était des ados.
Oui, c'est ça. On voyageait peu. Donc,
parlez pour vous.
Mmh. OK.
Non, mais certainement qu'il y a des ados qui voyageaient plus.
Ah oui, je parlais pour moi. Là.
Oui.
On inclut la personne qui parle ce fois-ci. Une petite exception. En 1986, Télévision 4 saisons diffuse sa première émission à Montréal. En toujours 86, au Chili, le dictateur Augusto Pinochet échappe à un attentat au bazooka et à l'arme automatique qui fait 5 morts. L'état de siège sera proclamé au pays. Dans 1986, toujours, Desmond Tutu devient le premier archevêque noir du Cap, en Afrique du Sud, évidemment. 1990, à l'appel des États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Koweït acceptent de financer les forces américaines face à l'Irak. En 1993, en Afrique du Sud, le gouvernement de Frédéric de Klerk et l'ANC de Nelson Mandela s'entendent pour instaurer un conseil exécutif de transition. 2005, à Rigaud, des individus attaquent un camion de sécuricard et s'enfuient avec plus de 35 millions de dollars.
Énorme. Est-ce qu'ils ont été attrapés?
J'ai pas souvenir.
L'histoire ne le dit pas?
Non.
35 millions à Rigaud?
Ouais.
Près de chez nous, ça. Moi, je suis né à Vaudreuil.
Il s'en passe des choses. Mm-hmm. En 2006, la première directrice et fondatrice du réseau CBC News World, Joanne Donaldson, s'éteint à l'âge de 60 ans. En 2006, toujours, le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, est le premier à s'exprimer devant un comité du Sénat où il propose un mandat limité à 8 ans pour les prochains sénateurs. 2011, Jean Charest, alors premier ministre du Québec, nomme Lynn Beauchamp à titre de vice-première ministre dans la foulée d'un léger remaniement. Toujours 2011, c'est l'inauguration de la nouvelle salle de concert de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et en 2011, toujours, un avion transportant l'équipe de hockey de la KLH Lokomotiv de Yaroslav s'écrase au moment du décollage dans l'ouest de la Russie qui va faire 44 morts. Quelques naissances, Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, ça a fait de la reine, bonne fête. Première est morte, elle est née en 1533.
Oui, parce qu'Élisabeth II est née en avril.
Non, je parlais d'Élisabeth Ière, c'est loin, là.
Oui.
C'est très...
C'est presque un crime de lèse-majesté.
Le saxophoniste américain Sonny Rollins, lui, naît en 1930, quand même un âge respectable, 70 plus 18, 88 ans. Et le fondeur québécois Alex Harvey, lui, naît en 88.
Ah, donc, il a 30 ans aujourd'hui?
Oui, tout jeune.
C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Mmh. Est-ce que c'est à 30 ans que les hommes sont beaux?
Mmh, on commence à... Ça descend pour les gars.
Encore là, c'est votre point de vue, Maurice.
1994, ben, les femmes sont plus belles, évidemment. En 1994, le cinéaste anglais Terence Young nous quitte. Et aussi l'ancien premier ministre Duplessis du Québec, je veux dire, Maurice Duplessis, lui, nous quitte en 1959, un 7 septembre. C'était la fête du travail à ce moment-là. Et je me souviens, il est mort au Labrador. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de... Le...
Oui, d'après la télésérie, oh, ben, oui,
avec Jean Lapointe. Là, il s'était fait un plaisir d'aller pisser sur la frontière du Labrador.
Ah!
Puis il est mort 2 jours plus tard.
Mais vous parlez de Jean Lapointe qui incarnait Duplessis.
Oui, dans la télésérie. Oui,
mais
oui.
Duplessis l'avait fait pour vrai, là.
Oui, je crois que oui. Oui,
ouais, oui. Ouais, c'était tout un personnage.
Ouais.
Comme vous, Maurice.
On
vous
ne
dites rien. Merci.
Ça fait plaisir.
Et oui, c'est vendredi, alors on fait des blagues et on s'amuse, pourquoi pas. Ville de Montréal, la vie est tellement triste. Les heures supplémentaires explosent, la facture a bondi de 29 % depuis 2014. Le nombre d'heures supplémentaires a atteint 2 millions. La vie est triste, oui, parce qu'on perd des géants. Une figure marquante s'éteint, parcours d'une animatrice, auteure, militante et politicienne qui a changé le Québec. Lise Payette, 1931-2018, qui s'est éteinte, je vous le rappelle, le 5 septembre à l'âge de 87 ans. Une chronique de Marie-Claude Lortie intitulée « La dame de cœur » qui fait référence à l'un des téléromans écrits par Lise Payette et « Éloge de l'ambition politique » Yves Boisvert qui parle de la carrière politique des bons et moins bons coups de Madame Payette. La presse à Toronto, tout sur le TIFF, c'est fou, c'est gros, c'est glamour. On parle ici du Festival du film de Toronto. À la Ville de Montréal, les heures sup, comme dirait l'autre, on connaît ça, 2 millions d'heures supplémentaires. La Ville de Montréal a de plus en plus recours aux heures supplémentaires depuis qu'elle a mis en place un plan de réduction du personnel en 2014. Pour la première fois en 2017, les quelques 28 000 employés de la métropole ont facturé un peu plus de 2 millions d'heures supplémentaires. Cela représente une hausse de 20 % par rapport à 2014. La hausse de la facture a toutefois été plus rapide, plus de 29 % les salaires du personnel ayant progressé durant cette période. Il en a ainsi coûté 77,6 millions l'an dernier. Rappelons que l'administration Coderre avait annoncé en 2014 un plan sur 5 ans pour réduire la masse salariale de la métropole. Celui-ci prévoyait l'abolition d'un poste sur 2 après un départ à la retraite. Policiers en tête, avec la multiplication des chantiers, les policiers ont vu leurs heures supplémentaires augmenter d'année en année. La facture est ainsi passée de 30,8 millions en 2014 à 40,2 millions l'an dernier. Chacun des 4450 policiers employés de la Ville de Montréal a ainsi fait en moyenne 142 heures supplémentaires en 2017, $63,20 coût horaire d'un policier en heures supplémentaires. L'École bleue de Montréal ont aussi fait des heures supplémentaires. Ceux-ci ont fait en moyenne 135 heures supplémentaires chacun l'an dernier. Les pompiers également, l'École bleue, plus important corps d'emploi à la Ville de Montréal. Les 10 400 cols blancs réclament aussi de plus en plus souvent des heures supplémentaires. Pas d'heures supplémentaires pour d'autres. Si certains groupes d'employés accumulent les heures supplémentaires, d'autres n'en font pratiquement jamais. C'est le cas des 37 architectes employés de la Ville qui n'ont réclamé aucune heure en 2017. Les 652 brigadiers ont quant à eux facturé collectivement à peine 12 heures supplémentaires l'an dernier pour un total de $387. Pour leur part, les 482 scientifiques travaillant pour la métropole n'ont pas eu à sortir leur calculatrice souvent. Ceux-ci ont réclamé un total de 857 heures supplémentaires, mais, comme chaque année, reçu $0. Invité à réagir hier, l'administration Plante n'a pas fait de commentaire. un pré fleuri au-dessus de l'autoroute Ville-Marie des 5 équipes retenues pour aménager le parc des Montréalaises surplombant l'autoroute Ville-Marie au terme d'un concours international d'architecture, c'est la Montréalaise Lemay qui a décroché le contrat. Le projet de 62,4 millions de dollars devrait voir le jour en 2022. La société d'architecture Lemay, en collaboration avec l'artiste Angela Silver et la firme d'ingénierie SNC-Lavalin, a séduit le jury composé de 9 femmes et de 2 hommes avec une proposition audacieuse qui relie le vieux Montréal au centre-ville grâce à une dalle inclinée qui s'élève vers le Champ de Mars. Ses qualités architecturales et environnementales contribueront à effacer la cicatrice causée par la construction de l'autoroute Ville-Marie dans les années 70, a dit la mairesse Valérie Pointe, Plante, en point de presse hier. Le thème lancé en 2017, le concours international d'architecture avait pour thème la commémoration de 21 Montréalaises qui ont marqué la mémoire et l'histoire de la ville, dont les 14 victimes de la tuerie de Polytechnique en 1989, au nombre des femmes honorées Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, Marie-Joseph Angélique, esclave noire, Idola Saint-Jean, militante féministe, Ida Roth Steinberg, femme d'affaires, Mira Cree, autochtone d'origine Mohawk, qui a été chef d'antenne à Radio-Canada, Agnès Vautier, joueuse de hockey, et Jessie Maxwell Smith, enseignante de la Petite Bourgogne. Leurs noms seront imprimés sur des marches au centre de la Grande Place où pourront se tenir des spectacles. On pourrait peut-être en ajouter une 22e, je pense bien sûr. Alice Payette, qui est une Montréalaise, elle est née à Verdun. À quelques mois de son départ pour l'espace, l'astronaute québécois David Saint-Jacques dit suivre de près les développements entourant la découverte d'un trou dans une capsule Soyouz amarrée à la station internationale. Cette affaire a pris une dimension étrange et controversée cette semaine quand l'agence spatiale russe a déclaré qu'il pourrait s'agir d'un acte prémédité. Le trou de 2 mm de diamètre a provoqué une fuite d'oxygène qui aurait pu s'avérer dangereuse pour les membres d'équipage, mais qui a été découvert à temps et a fini par être réparé. Pour nous, c'est un « wake-up call », il parle en anglais, une prise de conscience. Ça montre que tout l'entraînement qu'on fait n'est pas une blague. Ça peut réellement devenir utile, a dit hier en anglais donc David de Saint-Jacques en direct de Houston, lors de la conférence de presse officielle de l'expédition 58-59 qui amènera le Canadien dans la Station spatiale internationale le 19 décembre prochain. En entrevue téléphonique avec la presse, David Saint-Jacques a ensuite admis qu'il avait réagi avec surprise en entendant l'agence spatiale russe évoquer la possibilité d'un acte délibéré. Un député russe et ancien cosmonaute a même évoqué la thèse que l'un des 6 astronautes à bord ait utilisé une perceuse pour saboter la capsule Soyouz et forcer un retour précipité vers la Terre. L'agence spatiale russe affirme maintenant écarter la thèse initiale selon laquelle une micro-météorite aurait frappé la station. Des photos mises en ligne par la NASA et retirées depuis montrent un trou qui semble percé de l'intérieur. Plusieurs experts l'ont aussi jugé trop régulier pour avoir été causé par un impact de météorite. Et pour terminer, le drapeau arc-en-ciel est sorti hier dans plusieurs grandes villes de l'Inde à la suite de la décision de la Cour suprême d'invalider un article de loi datant de la colonisation britannique, dépénalisant ainsi l'homosexualité dans le pays.
Ralentir l'allure, tu brûles à mesure. Tu tournes les coins ronds, tu passes droit. Ralentis l'usure, à quoi tu carbures. qu'est-ce qui te manque? Vers quoi tu t'enguerres? Les fleurs carnivores se chargeront de toi.
Le duo Saratoga nous chantait « Fleurs ».
Merci Maurice, un duo qui vient de Rouyn-Noranda, je crois. Hein? En tout cas, il y a un des artistes qui...
Il y a Chantal Archambault.
Oui.
Et là, j'oublie son, le prénom de son, son collègue qui a écrit une couple de romans.
Monsieur Gass.
Oui.
Mathieu, je pense.
Non.
Un autre Gass.
On vérifie.
Bon, d'accord. Alors, en attendant, allons-y donc avec la une du Devoir de ce 7 septembre. On l'appelait Lise, magnifique photo en noir et blanc, 1931-2018. Lise Payette a mené plusieurs carrières combattant partout pour l'égalité. Legault joue la carte de l'identité. Les immigrants ne parlant pas français constituent une menace potentielle, dit le chef de la CAQ. Autre recul de Québec sur la protection des milieux humides. Et un autre qui s'éteint, le comédien Gilles Pelletier, qui est mort à l'âge de 93 ans, lui aussi est mort le 5 septembre en soirée. Et Zeitgeist, c'est la chronique de José Blanchette, attendre Fleurette, c'est Kaboul en sacrament, une citation. Donc Fleurette, c'est un petit bébé qui est né tout récemment. Alors, allons-y avec, on l'appelait Lise. Tout au long de sa vie marquée d'engagement, cette dame de cœur aura mené ses combats sur différentes scènes. Elle rejoignait tout le monde, que ce soit par la politique, son engagement pour les femmes, la culture, l'écriture. Peu de gens ont autant de cordes à leur arc, il faut le dire, a souligné Hélène David, ministre de la Condition féminine. Car Lise Payette, c'est les émissions Place aux femmes qu'elle anime avec Guy Provost de 1966 à 1972 et Appelez-moi Lise, grand talk show télévisuel quotidien de fin de soirée qu'elle animait avec Jacques Fauteux entre 1972 et 1975 qui établissait des records de cotes d'écoute. J'écoutais hier soir un petit peu partout sur toutes les tribunes radio, télé. Cette émission a été vraiment très, très populaire. Elle était présentée au quotidien, à 23 heures, il y avait 1 million de personnes au rendez-vous. Les gens se couchaient plus tard à l'époque. Lise Payette, c'est aussi un plus large accès aux garderies, le « Je me souviens » sur les plaques d'immatriculation, une réflexion critique des rapports hommes-femmes à travers les téléromans et le célébrissime personnage de Jean-Paul Bello, incarné, je vous le rappelle, par Gilbert Sicotte dans « Les Dames de cœur ». Elle est de ces femmes qui nous ont ouvert la voie et qui ont fait des gestes qui ont eu beaucoup de conséquences et qui l'ont fait de plusieurs manières, a dit Pauline Marois, première ministre de 2012 à 2014. C'est une femme de conviction qui a toujours été fidèle à elle-même et à ses engagements. C'est quand même exceptionnel que pendant 87 ans, elle n'ait jamais dévié de sa ligne malgré quelques écarts. Autre record, recul plutôt de Québec sur la protection des milieux humides. Pour la deuxième fois cette année, le gouvernement adoucit sa réglementation sur les milieux humides, cette fois pour satisfaire les demandes de l'industrie de la canneberge. Or, le ministère du Développement durable n'est pas au bout de ses peines puisque les élus de l'Abitibi-Témiscamingue réclament de nouvelles concessions. La Gazette officielle révélait cette semaine que l'industrie de la canneberge serait finalement exemptée en partie de la loi sur les milieux humides, la nouvelle loi de 2017. Dès lors, ces producteurs n'auront plus à payer des millions de dollars par an en compensation pour les milieux humides qu'ils détériorent. En mai dernier, le ministère estimait pourtant que ces compensations constituaient la seule manière de faire en sorte que les cannebergières compensent la perte de milieux humides. Concentrée dans le centre du Québec, cette industrie dit générer 1385 emplois directs et indirects à temps plein et des retombées économiques de 121 millions par an. Les milieux humides peuvent prendre la forme de marais, de marécages ou de tourbières. Ils sont considérés comme très précieux parce qu'ils jouent un rôle de filtre contre la pollution en provenance des eaux souterraines et de surface. Ils permettent aussi de réguler le niveau de l'eau et réduisent les risques d'inondation. Ils atténuent en outre l'impact des changements climatiques en séquestrant le carbone. Pour Louise Gratton de Nature Québec, le nouveau recul face à l'industrie de la canneberge est préoccupant. Le ministère souligne quant à lui qu'il prend des précautions supplémentaires puisqu'il s'est donné pour obligation de réviser le règlement dans 2 ans. Legault joue la carte de l'identité à 50 000 immigrants par année. C'est 500 000 sur 10 ans, a-t-il soumis jeudi en point de presse. Si ces gens-là n'apprennent pas le français et 59 % ne parlent pas français quand ils arrivent et qu'ils s'installent tous à Montréal, il y a un risque, effectivement, pour l'identité. Le français sera toujours vulnérable et c'est la responsabilité du premier ministre de protéger le français. C'est la première fois que François Legault associe son plan en immigration à une défense de l'identité québécoise durant cette campagne. Et il l'a fait lors d'un point de presse où il a aussi explicitement demandé aux électeurs nationalistes de se tourner vers la coalition Avenir Québec. Bonne nouvelle pour la démocratie, pour le journalisme international. Le Fonds québécois en journalisme international financé par des donateurs indépendants vient d'être créé pour permettre à des journalistes de faire des reportages à l'étranger. Ce fonds de 75 000 $ pour l'année qui vient est financé par 9 donateurs privés et parapublics. Le jury, composé cette année des journalistes Michel Ouimet, Michel Cormier et Philippe Sauvagnargue, étudiera les premières candidatures en octobre prochain. Le procureur en chef et la procureure en chef adjointe de la commission Vien, maître Christian Leblanc et maître Marie-Josée Barry-Gosselin démissionnent. La commission, qui enquête sur les relations entre les Autochtones et les services publics au Québec, a annoncé hier leur départ sans en préciser les raisons. Les démissions sont effectives dès vendredi le 7 septembre aujourd'hui même. Maître Suzanne Arpin prendra la relève comme procureur en chef à compter de lundi. La longue chronique d'Aurélie Langteau, je vous lis le début et la fin, « Crier au fond d'un puits ». Mi-août, François Legault est invité à l'émission de Christiane Charrette à Radio-Canada. Une grande entrevue de 23 minutes où l'on passe au crible sa vision pour le Québec. Les questions ne sont pas trop perdues. Le chef caquiste surfe bonne patte comme à son habitude. Ça rigole. Ce jour-là, le groupe Milk and Bone donne aussi une prestation sur le plateau. À un moment, Laurence Lafont-Bone, moitié de ce duo, s'invite dans l'entrevue. Est-ce que je peux poser une question? Moi, j'ai 27 ans et ça me fait tellement mal de savoir que dans vos priorités, il n'y a pas d'environnement. Aussitôt, la salle applaudit. Legault est visiblement déstabilisé par l'adhésion instantanée du public. Il se défend. Non, c'est important. Je pense qu'il y a un consensus au Québec sur l'environnement. Puis enchaîne sur l'importance d'exporter notre hydroélectricité aux États-Unis et propose d'accélérer la décontamination des sols, notamment dans l'est de Montréal, là où il y a, tiens donc, un potentiel de développement immobilier. Certes, il n'avait pas beaucoup de temps. Reste que dans la campagne électorale, les réflexions environnementales profondes et cohérentes brillent par leur absence. Quant à cet épisode, il illustre l'écart troublant qui existe entre le discours abstrait et spéculatif sur l'environnement tenu par une partie de la classe politique et la réalité, celle-là bien concrète de l'urgence climatique. La question environnementale ne peut plus être traitée comme une variable parmi d'autres dans l'élaboration d'un projet social et politique, car il s'agit désormais de la variable dont toutes les autres sont fonction. Tennis, un gain éclair en 67 minutes a propulsé Serena Williams en finale à Flushing Meadows jeudi. L'Américaine a battu la Lettonne Anastasija Sevastova 6-3 et 6-0 grâce notamment à 5 bris. Williams jouera en finale contre Madison Keys ou Naomi Osaka.
On arrive toujours au bout du parcours, du lieu d'où l'on vient. Toujours à l'affût de ce que l'on fut, toujours on revient. Poursuivre ses envies, finale asservie, à qui nul n'échappe. À quoi bon courir, tenter de s'enfuir, la vie nous rattrape. Comment se comprendre sans se faire surprendre par l'ennui qui veut étirer les jours, diluer l'amour, filament baveux. Sortez le front sur l'ultime affront à qui nul n'échappe. Les années d'usure, les points de suture, la vie nous rattrape. Dépression nerveuse, sinistrose creuse, joyeuse imposture. Toxicomanie, maladie bannie, sous la couverture. Compassion futile, existence stérile, à qui nul n'échappe. Flatteuse de bédaine, énergie soudaine, la vie nous rattrape. Margoulin du vice, vendeur de services, marché dévolu. Économie reine, télé souveraine, contrôle absolu. Montagne d'ordures, consommation pure, à qui nul n'échappe. Politique de poche, publicité moche, la vie nous rattrape. Pourquoi ce tapage, tout ce dérapage qui mine la boule? Tapage sur la gueule pour qu'elle toute veule entre dans le moule. Engraisser la terre, mode vestimentaire, à qui nul n'échappe. Macabée fétiche, qu'on sort de sa niche, la vie nous rattrape. Organes qu'on trafique, boum anatomique, conscience taciturne. Dissection fertile, esprit mercantile, pollution diurne. Pas de maquillage face à ce pillage, à qui nul n'échappe. Comme les honoraires, les frais funéraires, la vie nous rattrape. Planète qui tourne, climat qui s'enfourne et culte du vide. ressources qui s'épuisent, industries qui puisent, bras de fer à vide. Armes biologiques, grandes fausses sceptiques, à qui nul n'échappe. L'humanité siège sur son propre piège, la vie nous rattrape. Où faut-il aller, vers où s'envoler, quand on est la route? Vaut-il mieux se fondre, ne pas se confondre dans cette déroute? Perdu dans la ronde de ce vaste monde, à qui nul n'échappe. À quoi bon souffrir, à quoi bon mourir, la vie nous rattrape.
Plume la traverse. Le vaste monde, la vie nous rattrape.
Et un peu plus tôt, Maurice, on écoutait une chanson de Saratoga avec le duo. Vous avez trouvé le prénom de M. Gass.
Michel-Olivier Gass, oui.
Oui, accompagné de Chantal Archambault,
ouais.
Qui sont un couple dans la vie, petit potin en passant.
Ça se pourrait.
Oui, et ça se peut, parce que c'est vrai. Alors, à la une du Journal de Montréal, le Québec perd deux géants, 1931-2018 Lise Payette, 1925-2018 Gilles Pelletier. Plus bas, on peut lire l'acteur Burt Reynolds, s'éteint lui aussi, 1936-2018. Aussi, Air Saguenay, près de la faillite, le Nord se refermera. Perte des 700 millions à cause des surplus d'électricité, l'argent coule à flot des barrages d'hydro. Voilà donc pour la une du journal de ce vendredi. Maurice, merci. 22 millions pour les enfants handicapés et un ménage dans les programmes. François Legault promet de bonifier l'aide aux enfants lourdement handicapés pour que davantage de personnes y aient accès. Il y a 54 % des demandes qui ont été refusées parce que l'État jugeait que les enfants n'étaient pas assez handicapés. Ça n'a pas de bon sens. Nous, on veut que 100 % des familles y aient accès, a dit hier le chef caquiste lors d'un point de presse. Le programme de supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels créé en 2016 par le gouvernement libéral a un budget de 32 millions. La CAQ calcule qu'elle devra y ajouter 22 millions pour rendre les critères d'accès moins restrictifs. Nous ne laisserons personne derrière. L'aide offerte sera modulée en fonction de la sévérité du handicap de l'enfant, a expliqué M. Legault. Il promet aussi que dans un premier mandat, il augmenterait l'aide aux familles qui désirent garder à la maison leur enfant handicapé pour que cette aide soit équivalente à celle que reçoivent les familles d'accueil. Il n'a pas chiffré cet engagement qu'il juge complexe étant donné la panoplie de programmes et de crédits d'impôt qui s'entremêlent. M. Legault a fait cette annonce en compagnie de Marilyn Picard, candidate de la CAQ, dans Soulanges et mère d'un enfant souffrant de handicap. Mme Picard et son conjoint ont 5 enfants à la maison, dont Dylan, la dernière, qui est lourdement handicapée. Air Saguenay en difficulté. Le plus important transporteur de brousse au Québec, Air Saguenay, accuse le gouvernement Couillard de l'acculer à la faillite en refusant de débloquer les sommes prévues pour venir en aide à l'industrie après la fin de la chasse aux caribous. À la Fédération des pourvoiries du Saguenay, on souligne que si Air Saguenay devait disparaître, l'accès au Nord serait menacé en plus de causer des maux de tête aux pourvoiries du Sud. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs annonçait en janvier dernier un plan de transition de 16 millions sur 5 ans pour aider les entreprises touchées par la fin de la chasse aux caribous. C'est que les sommes promises sont demeurées bloquées tout l'été parce que les travaux du comité directeur responsable de la transition ont débuté seulement à la mi-juin. Invité à commenter, le cabinet de Luc Blanchette a affirmé que le ministre laisse le soin au comité directeur de poursuivre son travail. Je vais lire un article de Luc Boulanger un peu plus tard dans la portion culturelle sur la mort de Gilles Pelletier et surtout sur sa vie et sa carrière. Mais pour l'instant, je m'attarde à Lise Payette. On en a beaucoup, beaucoup de papiers à lire dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Hommage à une dame de cœur. Il y a José Legault qui signe une chronique bien sentie, un bel hommage. La petite fille aussi de Lise Payette qui parle et qui raconte que ce sont des moments de grande tristesse, j'imagine bien, on imagine aussi. Je n'ai pas encore pris conscience que j'ai perdu cette femme exceptionnelle, a confié sa petite fille Flavie Payette-Renouf. Tant la carrière en journalisme que celle en télévision et en politique de Mme Payette ont marqué la société québécoise de l'après-révolution tranquille. Sa mort a été annoncée par sa famille hier matin. C'était une femme qui a transcendé les partis politiques, une femme de conviction. Ça fait l'unanimité malgré le fait que c'est une femme qui pouvait être capable de remettre à sa place, a dit Mme Payette-Renouf, 30 ans, qui voyait sa grand-mère comme sa pierre précieuse. Et un peu plus loin, il y a la chronique, il y a aussi la caricature « Appelez-moi Lise », on peut voir Mme Payette, Lise, qui fait son entrée au ciel et qui est là pour l'accueillir, René Lévesque. Sous cette caricature, Lise Payette, une guerrière, Denise Bombardier. Qu'aurait pensé Lise Payette des hommages, parfois de surface, exprimés depuis 24 heures par ses amis et ses ennemis politiques? Elle en aurait ri, sans doute. Cette femme avait la rugosité du climat québécois. Chez elle, la douceur et la tendresse étaient réservées à quelques intimes. Au dernier homme de sa vie, qui l'adorait et qu'elle a aimé passionnément, et à sa petite fille Flavie, qu'elle idolâtrait. Elle fut la maîtresse-femme de son époque, l'incarnation du matriarcat québécois. Elle ne faisait pas dans la dentelle lorsqu'elle dénonçait ceux qui divergeaient d'opinion avec elle. Elle s'est battue pour l'égalité des sexes, mais avait tendance à se moquer des hommes. Elle a créé le prix du plus bel homme du Québec, façon de caricaturer les concours de beauté réservés aux femmes objets. Une douce vengeance qui passera comme une lettre à la poste, à preuve l'énorme popularité de ses émissions. Lise Payette n'était pas tendre avec les femmes non plus. La dénonciation des Yvettes lors de la campagne référendaire de 1980, alors qu'elle a comparé la femme de Claude Ryan à l'image insipide de la femme soumise que l'on trouvait dans les manuels scolaires, la poursuivra tout au long de sa vie. Sa vision du féminisme ne la protégera pas des critiques des jeunes militantes radicales d'aujourd'hui. Mais en un sens, Lise Payette s'est fait appliquer sa propre médecine, car quiconque l'affrontait dans le passé le faisait à ses risques et périls. Ces dernières années, quelques déclarations malheureuses et difficilement compréhensibles au sujet de son ami Claude Jutras, dénoncé pour pédophilie, et qu'elle a défendu bec et ongle, de même que sa défense de Michel Venn de l'Institut du Nouveau Monde, accusé d'agression sexuelle, ont provoqué un tsunami contre elle. Mme Payette avait tenté de dissuader la plaignante Léa Clermont-Dion pour la protéger, avait-elle affirmé. Ce fut sa dernière sortie publique. Il serait regrettable que les jeunes féministes ne retiennent de Lise Payette que ce malheureux quiproquo qui semble l'avoir condamnée. Mme Payette n'a jamais cherché à flatter les gens. Les compromis n'étaient pas dans sa nature. Elle s'est battue toute sa vie à visage découvert et n'a jamais fait semblant d'apprécier ceux qui l'insupportaient. Elle avait peu d'estime pour les femmes qui ne pensaient pas comme elle. Elle se battait pour les femmes en général, mais pouvait s'insurger contre des femmes en particulier, tolérant mal celles qui critiquaient son féminisme. Contrairement à sa contemporaine Jeannette Bertrand, elle a préféré le statut de guerrière à celui de victime. Jeannette a toujours aimé d'être aimée. D'ailleurs, le Québec l'a toujours prénommée Jeannette. Lise Payette, elle, est demeurée Madame Payette pour le grand public. C'est peu dire qu'elle en imposait. L'histoire retiendra ses importantes réussites politiques et cette image d'elle et de Corinne Côté auprès de René Lévesque. Le soir de la défaite du référendum de 1980, la femme forte était blessée mortellement dans son espoir. Hier, 38 ans plus tard, elle vient d'entrer dans l'histoire avec un grand H qu'elle repose en paix désormais. Alors, je voulais juste, avant d'enchaîner en musique, vous dire que Lise Payette a été chroniqueuse au journal de 2004 à 2007 et en sa mémoire, le journal publie aujourd'hui trois chroniques qui sont représentatives de la relation qu'elle avait développée avec ses lecteurs. 13 mars 2004, un stimulant irremplaçable, Me voilà encore une fois devant une page blanche. Pour moi, c'est un stimulant absolument irremplaçable. Il me reste deux étiquettes indélébiles, écrit Lise Payette. Je suis féministe, même si on prétend que ce n'est plus à la mode. Je suis toujours indépendantiste, même si les stratégies pour y arriver ne m'enthousiasment pas, pas plus que ceux qui les orchestrent. Autre chronique, parue le 2 octobre 2006, « Où va donc l'argent? » On l'a entendu des centaines de fois, nous sommes les plus taxés en Amérique du Nord. Logiquement, avec tout ce que nous payons de taxes et d'impôts, nous devrions avoir des infrastructures en or 14 carats. Ce n'est pas le cas. Il suffit de lever les yeux quand on roule dans un tunnel ou sous un viaduc pour réaliser à quel point le temps a fait son œuvre. Quant aux routes, n'en parlons pas. Elles sont une honte et un danger public, écrit en 2006. 23 avril 2007, le petit chaperon rouge. La composition du Conseil des ministres rendue publique par Jean Charest la semaine dernière a donné matière aux loups pour hurler leur mécontentement. Le petit chaperon rouge n'a plus peur du loup. Il est prêt à faire face. Le petit chaperon rouge est allé à l'école. Il est instruit et bardé de diplômes. Il assume les responsabilités qu'on lui confie et s'est montré digne de la confiance qu'on lui porte. On termine avec le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, favori du premier tour de la présidentielle le mois prochain au Brésil, qui a été opéré d'urgence hier après avoir été poignardé à l'abdomen en faisant campagne. Un porte-parole de la police militaire du Minas Gerais a annoncé que le suspect, un homme de 40 ans, avait été immédiatement arrêté.
Things gonna be alright.
au quotidien des quotidiens. C'était Jane et All Right.
Allons-y avec les journaux canadiens. En ce vendredi 7 septembre, dans La Liberté, ils ont joué le jeu de la vérité. Alors, Danis Karouba, Mia Lee Garreau, Janelle Campagne, Maxime Kornatchouk participent à la deuxième saison de Comment devenir adulte pendant une année. Les caméras de Wookie Film sont entrées dans leur intimité. Leur point en commun, adolescents au collège Louis Riel, dorénavant, ils ont un deuxième point commun. Ils sont les héros de la deuxième saison de Comment devenir adulte. Il y a Mia Lee, touche-à-tout et passionnée par la culture japonaise. Max, danseur-performeur et passionné par les arts du cirque, Janelle, impliquée dans différents comités communautaires, et Danny, le sportif qui coach une équipe de basketball dans son école. Pour réaliser cette série de télé-réalité, la consigne était claire. Dès que quelque chose arrive dans leur vie, les jeunes devaient appeler l'équipe de tournage et leur expliquer ce qui s'était passé. Mia Lee Garreau ajoute « C'était comme un contrat. Tu ne pouvais rien cacher. Tout ça dans le respect de chacun, comme l'explique Maxime. » Ils ont toujours respecté notre niveau de confort. Par exemple, moi, je n'ai pas vraiment été transparent au niveau de ma relation. C'était trop compliqué à en parler à la télévision. Je voulais respecter la vie privée de cette personne et me respecter moi-même. À un moment donné, Maxime évoque avec son frère dans la voiture le moment de son coming out en tant qu'homosexuel. Janelle, elle, a vécu un moment douloureux durant la série, la mort de son grand-père. Danny Karouba, plus réservé de nature, a dû faire face à un autre défi. Il faut que tu sois ouvert avec ta vie. Il faut partager ta vie personnelle. Je suis quelqu'un qui ne partage pas vraiment mes émotions. Alors l'équipe m'a aidé à sortir de ma bulle. Ils m'ont aidé à juste prendre confiance en moi. Finalement, quand on demande à ces ados quel message ils voulaient faire passer, chacun était prêt à partager sa motivation profonde. Pour Maxime, c'était pour montrer au monde que même s'il y a des stéréotypes liés aux homosexuels, tu peux définitivement briser ce stéréotype. Pour Mia Lee, sa motivation était liée à une réalité à laquelle elle est confrontée chaque jour. Je voulais montrer aux jeunes qui ont des troubles d'attention et qui sont dyslexiques, c'est quoi être étudiante. Pour Janelle, l'émission a été avant tout une porte ouverte pour laisser parler sa liberté d'expression. C'est correct d'être différent, de passer à travers des moments difficiles et de montrer tes sentiments aux autres. Et enfin pour Dani qui conclut, sois toi-même, n'aie pas peur de faire de nouvelles choses. Juste essaye. L'émission est diffusée sur UNITV ce 5 septembre à 20h, donc c'était il y a quelques jours, mais est rediffusée aujourd'hui même à 17h30, le 8 septembre, le 9 septembre et le 10 septembre. Dans le régional, cette fois, c'est un article qui est paru récemment, aujourd'hui. Les acteurs de la francophonie du Niagara se sont retrouvés au musée de Welland le vendredi 17 août pour la célébration de la francophonie. Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, Serre-Niagara, le Conseil scolaire Viamonde, le Collège Boréal, la paroisse du Sacré-Cœur et l'ABC communautaire ont répondu à l'invitation pour mieux faire connaître les services en français et montrer que l'on peut apprendre, se former et tout simplement vivre en français dans la péninsule, particulièrement à Welland. En présence de la curatrice du musée, Penny Morningstar, le maire Frank Campion a d'ailleurs appelé lors de la cérémonie d'accueil qu'il était attentif à la pérennité et au développement de la culture francophone dans une ville qui s'est bâtie en partie grâce à la communauté de langue française, historiquement présente depuis les années 1920. Pour Michael Carrière, toutes les occasions sont bonnes pour découvrir la communauté francophone. Le musée essaie de la promouvoir par le biais d'expositions bilingues et d'animations telles que celle-ci. L'objectif est de dire au monde qu'on supporte le bilinguisme comme une richesse pour la ville et ses résidents. Dans le journal Le Nord, traversée du Canada en français, un pari réussi par Amy Vachon Chabot ou Chabot, originaire de Drummondville au Québec. Jimmy Chabot, YouTuber connu sous le nom de Jim Chab, a quitté sa ville natale le 1er juillet 2018 pour se rendre au Yukon et en Arctique sur le pouce, sans argent ni cellulaire. Un héros, faut le faire. Un défi en soi, oui, agrémenté d'un obstacle supplémentaire, voyager seulement en français. Pour Jim Chab, traverser le Canada sur le pouce sans argent ni cellulaire n'était pas suffisant. Il désirait avant tout mettre en valeur les communautés francophones du pays. Étant donné que je commençais à avoir un peu plus de gens qui me suivaient sur YouTube en sol québécois, mon but était de montrer qu'il y a des francophones qui vivent partout au Canada. C'était ça l'importance de traverser le pays uniquement en français, a-t-il expliqué. La décision de partir à l'aventure a aussi été suscitée par un autre facteur, la santé mentale. À son retour d'Afrique en mai dernier, Jim Chab a fait une dépression. Il venait notamment de rencontrer plusieurs échecs sur le plan professionnel et était de retour chez ses parents. Il a donc choisi de faire ce périple pour sortir de sa zone de confort, lui qui était pris dans un cercle vicieux. Un choix qui en a fait douter plus d'un. « On m'a tellement dit que je ne serais pas capable en 2018 de faire du pouce », souligne Jim Chab. « Je pense que ça m'a vraiment redonné foi en l'humanité. Je pense qu'il y a de bonnes personnes partout au pays ». 35 jours plus tard, le YouTuber a réalisé son pari et des dizaines de gens ont contribué à sa réussite, notamment des Franco-Albertains. Un séjour dans le nord-ouest de la province, ça c'est dans le journal Le Franco. Lors de son trajet pour se rendre au Yukon, Jim Chab n'avait pas eu la chance de faire découvrir la communauté franco-albertaine puisqu'il avait été en mesure de trouver un camionneur avec qui il a fait le trajet Manitoba-Yukon. Ainsi, il était de passage dans la province à son retour, qui fut notamment des plus difficiles en raison d'une extinction de voix, et des situations qui l'ont placé en mode de survie. Tout de même, son aventure a été agrémentée par l'accueil qu'il a reçu de la part des familles franco-albertaines. La famille Bergeron a été la première à héberger Jim Chab, et ce, pendant 2 jours. Elle lui a, entre autres, fait découvrir la meilleure poutine à l'extérieur du Québec, ça existe, paraît-il. Joanne Tremblay-Côté, secrétaire de l'École Nouvelle Frontière, a par le plus grand des hasards croisé Jim Chab à Wanham sur son chemin pour se rendre jusqu'à Rivière-la-Paix. Mathieu et Laval Bergeron ont par la suite accueilli le YouTuber sur leur ferme de Canola à Saint-Isidore. « L'affaire que j'aime, c'est que les petits villages s'entraident beaucoup », dit Jim Chab. Jim Chab qui est à la conquête du monde et qui souhaite se rendre en Australie sur le pouce et sans argent. Il a quitté Edmonton le dimanche 26 août en direction de Vancouver. Je recherche activement un bateau pour me faire traverser l'océan Pacifique. Ma stratégie serait de longer la côte ouest pour demander à chaque port si un bateau part vers l'Asie ou l'Australie. Il est débrouillard, ce garçon. En attendant de voir les prochaines péripéties de son aventure, vous pouvez visionner son documentaire Le Canada sur le pouce sur sa chaîne YouTube Jim Chab Vlog pour voir sa traversée du Canada. Un autre grand nous a quittés, il s'agit cette fois du comédien Gilles Pelletier, le frère de Denise Pelletier. D'ailleurs, je vous en parle dans la prochaine portion de l'émission. Segment culturel, restez avec nous.
je vais écrire l'eau qui étanche la soif et le désir. La page est blanche, je vais écrire vivre profond.
Canal M, vous entendiez Richard Séguin, nouveauté dans les bois, tiré d'un album qui sort aujourd'hui, l'album qui s'appelle Retour à Waldem, Richard Séguin sur les pas de Thoreau. Thoreau étant un essayiste, philosophe, poète américain du 19e siècle.
C'est très prometteur. Vous nous avez fait entendre un autre extrait en début de semaine avec celui-là. Là, jusqu'à maintenant, je suis assez conquise.
Oui, c'est du Richard Séguin, égal à lui-même, tant qu'à moi. Là.
Ouais,
c'est positif là, quand même. Oh,
une
oui.
sorte d'album plutôt concept. Ça me fait penser à quand il avait écrit L'Ange vagabond en pensant à Kerouac. Mm-hmm. Cette fois-ci, c'est à Thoreau. Ça donne envie vraiment de l'explorer.
Ah oui, absolument, absolument. On va jeter une oreille.
Oui, tout à fait. Alors, Gilles Pelletier qui nous a quittés. Un phare s'éteint, c'est le titre de l'article de Luc Boulanger. La mort de Gilles Pelletier, deux semaines après celle d'Albert Miller, représente une autre immense perte pour le Québec. L'acteur qui a fait partie des débuts de la télévision, en plus de marquer le théâtre québécois durant plusieurs décennies, s'est éteint à l'âge de 93 ans. De mort douce et naturelle, a indiqué son agent. Retour sur le parcours d'un acteur au long cours. On croisait et saluait si souvent M. Pelletier dans les premières de théâtre qu'on avait fini par croire que le vieux chêne était éternel. C'est vrai, pour ma part, je l'ai croisé souvent au théâtre Denise Pelletier qui était sa sœur. Hélas, si les monuments sont immortels, les humains ne le sont pas. À 93 ans, le doyen de nos artistes est mort mercredi à l'hôpital Jean Talon, entouré de ses proches. Le comédien nous a quittés comme il a vécu, doucement, tendrement, lucidement et sans aucun regret. Puis Gilles Pelletier vieillissait, plus Gilles Pelletier vieillissait, plus il était charmant, adorable. Après le départ d'Albert Miller, maintenant c'est au tour de Gilles. Quel incroyable vide, je suis sous le choc. C'est André Lachapelle qui dit cela. L'actrice a souvent été la partenaire de l'un et de l'autre au théâtre et à la télévision. Je suppose que c'est ça, vieillir, voir tout le monde partir autour de soi, confie la comédienne qui a aussi perdu son conjoint, André Melançon, il y a 2 ans. Selon Vincent Gratton, proche du comédien depuis son enfance, il est le neveu de Françoise Gratton, la femme de Gilles Pelletier, morte en novembre 2014. Le comédien était charismatique, tant dans la vie que sur la scène. Gilles avait une immense tendresse, une belle douceur, mais il était également très solide et d'une grande droiture. Avec le temps, Gilles est devenu comme un vieux sage. Lorsque j'allais manger chez lui et Françoise, il me parlait en me fixant de ses grands yeux bleus perçants, comme des scanners. De Marcel Dubé à Shakespeare, en passant par Ionesco et Tremblay, Gilles Pelletier a été un fabuleux acteur qui a tout joué au théâtre. « Quand j'ai réalisé Jésus de Montréal », nous dit le réalisateur Denis Arcand, joint à Toronto, J'ai écrit un personnage en hommage aux jésuites qui m'ont enseigné au collège et qui m'ont fait aimer le théâtre à l'adolescence. Or, j'ai tout de suite pensé à Gilles Pelletier. Pour moi, cet acteur symbolisait le respect et l'amour du théâtre. Puis, je lui ai de nouveau offert des rôles dans d'autres films. Gilles Pelletier avait deux grandes passions, le théâtre et la marine. Il a eu des bateaux et a navigué sur fleuves et mers jusqu'à tard dans sa vie. Il était à la fois un homme de troupe, aimé de ses partenaires de jeu, et un solitaire qui rêvait du large, comme le Marius de Pagnol. Gilles Pelletier était un homme droit et enraciné dans le sol québécois comme une figure de proue. Mais c'était aussi un visionnaire qui n'avait pas peur des défis du travail, dit Claude Poisson, directeur du théâtre Denise Pelletier. Un héritage important de Gilles Pelletier, c'était bien sûr, et c'est bien sûr, la nouvelle compagnie théâtrale, aujourd'hui le théâtre Denise Pelletier, qu'il a fondée en 1964 avec Françoise Graton et Georges Groux. Plusieurs personnes ont découvert leur amour du théâtre grâce à la NCT. Et des générations d'acteurs ont choisi de faire ce métier en voyant des pièces au Jésus ou au théâtre Denise Pelletier. Selon le comédien Vincent Graton, en fondant la NCT, Gilles Pelletier et ses complices avaient une mission: démocratiser la culture en la rendant accessible aux jeunes. Gilles et Françoise allaient à la rencontre des élèves pour leur parler de théâtre dans les écoles. Ils organisaient des matinées scolaires et des soirées théâtre d'avant-garde. Lorsque la NCT a déménagé dans une salle dans l'est de la ville, c'était pour décentraliser l'offre culturelle et présenter du répertoire dans Hochelaga-Maisonneuve, souligne M. Graton. Pour Claude Poisson, le projet de la NCT a toujours été un projet de société artistique aux yeux des fondateurs. Gilles Pelletier voulait transmettre la passion du théâtre et ce projet était un idéal qu'il portait avec fougue et détermination. À ses yeux, il était primordial d'éveiller les jeunes dès l'école pour leur donner le goût du théâtre. C'était un service essentiel et nécessaire à l'avenir de la société. Un grand acteur et un grand monsieur dont la carrière a été jalonnée de grands moments, résume Michel Tremblay, en se remémorant quelques morceaux choisis. I Confess d'Alfred Hitchcock, Un simple soldat de Marcel Dubé, L'héritage de Victor Lévy-Beaulieu, sans compter Le capitaine Aubert de mon enfance dans Cap aux sorciers, dit Tremblay. Il était aussi un très grand patriote, dit Yves Desgagnés, qui jouait son fils junior dans le téléroman L'héritage. Comme Gilles était aussi marin, il était proche du territoire québécois, proche du fleuve, proche du vent, ajoute Yves Desgagnés. Le comédien nous rappelle au passage que Victor Lévy-Beaulieu avait écrit le personnage secret et ténébreux de Xavier Galarneau, spécifiquement pour Gilles Pelletier. Gilles Pelletier est né à Saint-Jovite le 22 mars 1925. Sa famille déménage à Montréal peu de temps après et son père y installe son cabinet de notaire. Les Pelletier sont cultivés. Albert Pelletier a fondé une maison d'édition, une revue littéraire et a été critique au journal Le Canada. Sa femme, Marie-Reine Vaugeois, jouait du piano et organisait des soirées littéraires et musicales le samedi soir. Leur fille aînée, Denise, a été une actrice légendaire. Elle et son frère, son petit frère, ont fait très jeune leur apprentissage dramatique avec les Citarédèse, François Roset, Jean Valcourt, entre autres maîtres. Les Pelletier reçoivent rue Saint-Hubert à l'angle de Cherrier, l'intelligentsia de l'époque. Olivier Asselin, Claude-Henri Grignon, Hector de Saint-Denis-de-Garneau, Saint-Denis-Garneau, et plus tard Roger Lemelin. Grignon a même écrit « Un homme et son péché » dans leur maison, profitant des précieux conseils d'Albert Pelletier. Malgré l'aura artistique de sa famille, Gilles Pelletier est le frère cadet de Denise Pelletier, morte prématurément en 76 à 53 ans. Gilles Pelletier, attiré par la mère, quitte les études préparatoires pour devenir matelot. Il fait un stage dans une école navale, puis s'engage dans la marine. Il navigue avec les forces navales françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. Il envisagera même de se faire naturaliser français. Or, à la fin de la guerre, le destin fait bifurquer sa route. « Je devais partir en expédition aux Antilles », nous a-t-il confié en entrevue en décembre 2014. La veille de mon départ pour New York, le bateau a fait abordage. L'expédition a été retardée. Comme je n'avais pas de boulot, ma sœur Denise m'a demandé de remplacer un acteur qui s'était désisté dans une production du théâtre de l'équipe où elle tenait le rôle principal. À l'époque, Denise Pelletier se produit déjà sur beaucoup de scènes. Elle deviendra rapidement une grande vedette au Québec. Pour son frère cadet, le succès arrivera un peu plus tard avec des téléromans comme Cap aux sorciers, La famille Plouffe, Rue de Lens, puis le téléthéâtre Un simple soldat. Dans cette œuvre de Marcel Dubé, Pelletier incarne Joseph Latour, ce jeune homme en éternel conflit avec son père. incapable de trouver sa place dans le monde, est un personnage marquant du répertoire québécois et le plus grand rôle de Pelletier dont il parlait encore avec passion à la fin de sa vie. Gilles Pelletier était un acteur au long cours, droit comme un chêne, sensible comme un roseau. Son parcours est unique et exemplaire. Hier, on parlait de Safia Nolin, qui va bientôt sortir un nouvel album. Richard Séguin sort son album aujourd'hui même. Et Ariane Moffatt lancera son 6e album de chansons originales le 19 octobre. Son titre, Petite main précieuse, Petite main précieuse au pluriel, un disque pop aux sonorités néo-70s, annonce l'auteur, compositrice, interprète, qui a travaillé en co-réalisation avec Philippe Brault. Le processus créatif de Petite main précieuse a été capté dans un documentaire réalisé par Antoine Bordelot, qui sera télédiffusé sur les ondes d'Art TV le 15 octobre. Ariane Moffatt a également annoncé des dates de tournée, dont celle des spectacles au MTELUS, ex-métropolis de Montréal, le 22 février, et à l'Impérial de Québec, le 22 mars. Le cabaret du Casino de Montréal a rapidement pris des allures de piste de danse hier soir au rythme des classiques revisités par Sylvain Cossette qui donnait le coup d'envoi à sa tournée 80s ou les années 80. Annoncé il y a un an, le spectacle était attendu. Plus de 25 000 billets ont déjà été écoulés avant même que Sylvain Cossette ne fasse à nouveau résonner les synthétiseurs d'il y a 30 ans à nos oreilles. Plus de 50 représentations de ce spectacle sont prévues dans les prochains mois. L'homme n'était pas encore arrivé à la moitié de son pot pourri d'ouverture amorcé avec Never Tear Us Apart d'INXS et Let's Dance de David Bowie qu'il invitait les gens à se lever pour se dandiner. Plusieurs n'avaient pas attendu son signal et se trémoussaient déjà. On y va avec la dernière, oui, Maurice. Lui, on ne peut pas y échapper. Burt Reynolds, il a fait aussi partie de notre imaginaire et il est parti dans un monde meilleur, on l'espère bien pour lui et pour nous, plus tard, le plus tard possible. L'acteur américain Burt Reynolds, vedette d'Hollywood dans les années 1970 et 1980, est mort jeudi à l'âge de 82 ans dans un hôpital en Floride, a confirmé le manager de M. Reynolds, Eric Kritzer, au Hollywood Reporter. Le comédien né en 1936 était particulièrement connu pour son rôle dans Deliverance aux côtés de John Voight et avait également donné la réplique à Mark Wahlberg dans le film de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, en 1997. L'acteur américain était également la vedette du film Cours après moi, shérif. L'acteur ayant commencé sa carrière à la fin des années 50 était aussi passé derrière la caméra. En 1998, Burt Reynolds est nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Jack Horner, un producteur de films pornographiques dans le long-métrage Boogie Nights. Il devait aussi jouer dans le prochain Quentin Tarantino, mais malheureusement, ça ne se réalisera pas.
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier. Et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Au mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée, c'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.
C'est en septembre, Gilbert Bécaud.
Dans la presse d'aujourd'hui, on présente une belle histoire d'inclusion qui nous montre que le travail, c'est la santé pour tous et c'est la bonne humeur aussi. Le pari fou de John Cronin, des années avant leur consécration comme accessoire mode, John Cronin a fait des chaussettes colorées sa marque de commerce. Lorsqu'il a terminé ses études secondaires, le jeune trisomique n'avait aucune option de carrière. Et si on lançait une entreprise de chaussettes, proposa-t-il à son père. C'est lui qui l'a proposé à son père. De ce pari fou est né John's Crazy Socks, qui connaît un succès fulgurant. Et la presse a rencontré le duo dans ses locaux de Long Island, près de New York. C'est Daphne Cameron qui raconte l'histoire avec ses maisons cossues aux pelouses manucurées. Melville ressemble à la plupart des villes de banlieue new-yorkaises. Dans la rue principale, un bâtiment coloré détonne au milieu de la succession d'entrepôts anonymes. À l'intérieur, une dizaine de jeunes adultes bourdonnent autour de tables sur lesquelles des chaussettes de toutes tailles et de toutes couleurs sont méticuleusement ordonnées, prêtes à être acheminées. La plupart des employeurs n'auraient jamais pensé ou même voulu les embaucher. Ils sont trisomiques, déficients intellectuels ou sur le spectre de l'autisme. Pourtant, ils sont les acteurs d'une « success story » née dans la tête d'un jeune trisomique de 22 ans. Leur mission? Répandre le bonheur avec le port de chaussettes farfelues. D'ailleurs, on le voit, M. Cronin, en tenir une paire de chaussettes. C'est Justin Trudeau qui est donc sur cette image, sur cette chaussette. On a aussi Barack Obama, Donald Trump... I Heard You and I Don't Care, un autre chaussette où on peut lire Bride's Besties, et aussi avec, ah oh oui, l'espèce de sauce très, très piquante, là, comment on l'appelle? J'ai juste Chiara dans la tête, mais c'est pas tout à fait ça. Je poursuis la lecture, mais c'est ça, la chaussette est pleine de ces bouteilles-là, illustrées, bien sûr. Grâce à leur travail acharné, John's Crazy Socks a fait un chiffre d'affaires de 4 millions US depuis son lancement en décembre 2016. Ce n'est ni de l'altruisme, ni de la charité, c'est de la bonne business. Nous avions besoin de bons employés et ce sont d'excellents employés. Mark Cronin, c'est le père de John et dirigeant de l'entreprise. L'entreprise en pleine expansion emploie aujourd'hui 35 personnes, dont 18 avec des capacités différentes. Près de 110 000 commandes ont été effectuées sur son site web par des clients de 44 pays. Plus de 1 900 modèles, tous plus extravagants les uns que les autres, sont en vente sur le site d'achat en ligne. Certains font même partie de la garde-robe du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a aussi fait du port de chaussettes original sa marque de commerce. Pour les funérailles de sa femme, Barbara, l'ancien président américain George H. W. Bush a contacté Mark et John Cronin pour dénicher des chaussettes à motif de livres afin d'honorer son amour de la lecture. On veut montrer à la planète ce qui est possible lorsqu'on donne une chance aux gens. John est le visage de notre entreprise et le fait qu'il soit trisomique n'est pas un boulet. C'est une force, dit Mark Cronin. Le succès de John's Crazy Socks fait en quelque sorte mentir Walmart. En mars dernier, le géant du détail a décidé de mettre un terme à son programme d'intégration au travail de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Cette décision avait suscité un tollé au Québec et Walmart a fait marche arrière. Mais la situation montre combien la situation professionnelle des employés ayant un handicap intellectuel est précaire. Le problème, c'est que les entreprises pensent que c'est compliqué et qu'il faut absolument mettre en place des programmes lourds. Ici, personne n'a de formation particulière et nous ne recevons aucune aide gouvernementale, dit Mark Cronin. Notre secret, c'est qu'il n'y a aucune ségrégation. On ne dit pas aux employés qui ont un trouble du spectre de l'autisme d'aller travailler dans un coin. Tout le monde est ensemble, dit le père de John. John, dont l'une des tâches consiste à rédiger une note de remerciement personnalisée jointe à chaque commande, avoue qu'il est fier du chemin parcouru. « J'aime travailler avec mon père, dit-il, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et pourquoi aime-t-il autant les chaussettes? Parce que c'est amusant, les couleurs sont merveilleuses et elles me permettent d'être moi-même. » Ça donne vraiment le goût de commander une paire de chaussettes et d'imiter cette belle aventure qui nous ouvre les yeux et l'esprit. Quelques suggestions de sortie pour la fin de semaine. Rhypnopolis, mélomanes, technophiles et amoureux du rythme en fin de semaine, nous pourrons assister à un spectacle immersif en 9 tableaux animés par 9 compositeurs et 50 percussionnistes et qui entremêlent percussion, danse et nouvelles technologies. C'est aujourd'hui et demain à 20h30 à la place des festivals du quartier des spectacles et c'est gratuit. Alors, peut-être que vous allez faire comme plusieurs personnes, vous diriger vers Saint-Tite où se tient le Festival Western, dans ce village qui se transforme pendant quelques jours en véritable ville du Far West. On pourra voir des rodéos, des spectacles western et country tout en se baladant. Et si vous avez encore des bas de cowboy, c'est le moment de les sortir. C'est jusqu'au 16 septembre, toute la journée et la soirée. Pas de coût d'entrée, mais certaines activités payantes. Vous pouvez consulter le site pour avoir toutes les informations. Il y a aussi la Fête des Amériques. C'est la première édition de cette fête qui souhaite rassembler les amoureux de l'Amérique latine. On pourra voir plusieurs spectacles, savourer des plats typiques, en plus de rencontrer des commerçants et des artisans qui nous feront mieux connaître le continent et les îles. Aujourd'hui, demain et dimanche, au Quai Jacques-Cartier du Vieux-Port, il y a une passe de 3 jours qui est disponible à 35 $, passe d'un jour 20 $ et c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Alors oui, c'est pas la Tabasco, c'est la sauce Sriracha. Merci Maurice pour l'information, qui se trouve donc sur une des paires de chaussettes réalisées par Mark Cronin et son fils John. C'est sur ces propos piquants que je vous souhaite une agréable fin de semaine. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer. On annonce très beau et frais également. Une belle fin de semaine pour aller se promener. Ici Hélène Denis qui vous dit merci d'avoir été là. J'espère vous retrouver lundi. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde, à la musique et à toutes sortes d'autres choses, dont des informations pertinentes quand je les cherche. À très bientôt.